Donc, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, premier chapitre. C'est le premier chapitre du Nouveau Testament même, hein, donc c'est pas anodin. Et c'est quasiment l'introduction du Nouveau Testament, si on saute cette généalogie que l'évangéliste Matthieu nous raconte en détail au premier chapitre. On va prendre à partir du verset, donc à partir du verset 18. C'est bon ? J'ai pas dit de bêtises, non ? C'est bon. Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Prions. Merci Seigneur notre Dieu de nous donner l'occasion encore ce matin de te rendre ce culte et également d'étudier ta parole ensemble. Nous voulons Seigneur te prier de nous assister, de nous aider à être à l'écoute de ce que toi tu veux nous dire. Nous reconnaissons, nous confessons l'utilité de cette parole dans notre vie, pour notre édification, pour notre croissance dans la foi. Seigneur, permets qu'aujourd'hui ta parole encore une fois porte du fruit dans nos vies. Amen. Si vous étiez présent hier soir pour la rencontre de jeunes sur le thème de l'Allemagne, nous avons vu que la Bible nous parlait de la chute d'un autre mur que le mur de Berlin. Nous avons vu que la Bible nous parlait de la chute d'un mur que l'apôtre Paul appelle le mur de séparation, qui distinguait dans l'Ancien Testament le peuple élu de Dieu, Israël, des autres nations. Et puis de part et d'autre de ce mur, on était totalement séparés quoi, les uns des autres. Et Paul explique que Jésus est venu, et il a détruit ce mur, et ce qu'il a accompli à la croix était offert à tous ceux qui se confieraient en lui, sans aucune distinction, discrimination de nationalité, d'origine, de race, etc., etc. Mais on avait commencé cette méditation hier soir en se posant une question. C'était la question de ce que cela voulait dire d'être chrétien. Est-ce qu'on ne s'habitue pas à ce vocabulaire ? Est-ce qu'on ne s'habitue pas à nos cultes le dimanche ? Est-ce qu'on ne s'habitue pas aux fêtes chrétiennes, les fêtes de Noël, de Pâques et les autres, l'Avent, que nous commencerons à célébrer à partir de dimanche prochain, est-ce qu'on ne s'y habitue pas ? Qu'y a-t-il finalement de vraiment extraordinaire aujourd'hui dans le christianisme ? Qu'y a-t-il de vraiment extraordinaire ou de différent avec le christianisme ? La plupart de nos concitoyens fêtent Noël, sans pour autant être radicalement différent des autres gens qui, éventuellement, ne fêtent pas Noël. La plupart de nos concitoyens, et oui, la majorité même, se disent chrétiens. Et pourtant, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose à leur vie si on les compare à ceux qui ne se disent pas chrétiens. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le message chrétien ? Est-ce que ça change vraiment grand-chose ou est-ce que finalement c'est qu'un détail, c'est qu'une tradition, c'est qu'un folklore ? Et bien là, je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment dans l'introduction, non seulement à l'évangile de Matthieu, mais dans ce texte, on est également dans l'introduction providentielle à tout le Nouveau Testament. Dans l'histoire de la révélation, il y a eu plusieurs siècles de silence où finalement, il n'y a pas eu de prophètes qui ont écrit des choses. Et depuis le dernier prophète de l'Ancien Testament, il y a eu cette période où on ne savait pas trop si Dieu allait finalement faire quelque chose, allait intervenir, allait parler de nouveau. Et dans l'introduction à cette nouvelle révélation, puisque nous l'avons dans la parole de Dieu, dans la Bible maintenant, cet évangile de Matthieu ainsi que tout le Nouveau Testament, Matthieu l'évangéliste va aller droit au but. Il va aller droit au but, il va annoncer la couleur dès le premier chapitre, et il va le faire de façon même provocante. Pourquoi? Pour une raison toute simple, parce qu'il veut montrer que le message de son livre, le message de l'évangile de Matthieu, mais on pourrait étendre ça à tout le message du Nouveau Testament, est complètement hors du commun, et que ce message a le potentiel de bouleverser radicalement des vies, de sorte qu'une vie chrétienne ne sera pas du tout comme une vie non chrétienne. Et je me suis dit que ce serait important pour nous, avant d'entrer dans les festivités de Noël, à partir de dimanche prochain, avec les 4 dimanches de l'Avent, on aura, merci à Lucien et Charlotte, on aura une belle couronne de l'Avent ici devant, on allumera une bougie de plus chaque dimanche, etc. On va rentrer dans cette période de fête, on va penser de plus en plus à Noël, on va sans doute commencer à faire nos courses de Noël, etc., etc. Mais avant d'entrer dans cette période, je pense que le message que l'on peut tirer de ce texte de Matthieu peut jeter une lumière nouvelle sur tout ce qu'on va faire et qu'on a l'habitude de faire à l'approche de cette fête. Alors, Matthieu annonce son sujet, en tout cas le sujet de ses premiers chapitres. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Et il va tout d'un coup jeter un pavé dans la mare. Marie était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Paf! On n'a jamais entendu parler de ça avant. Quelqu'un qui naît par la... qui... Oui, qui naît, qui est conçu par l'action du Saint-Esprit, une intervention divine dans la naissance même et la conception même de cette personne, Jésus-Christ, dont Matthieu va nous raconter sa naissance. Alors Joseph, ensuite, ne va bien sûr va pas être très ravi de cette nouvelle. Il découvre que sa fiancée est enceinte, alors que, bien entendu, elle était vierge. Elle devait l'être jusqu'au mariage. Il est blessé, sans doute, Joseph. Il veut rompre, le texte nous le dit. Mais l'ange va intervenir dans un songe et lui parler pour lui expliquer ce qu'il en est. Joseph, fils de David. Un nouveau pavé dans la mare. Pourquoi Joseph est-il appelé le fils de David? Matthieu est en train de nous rappeler, de nous rappeler la promesse qui a été faite au roi David, d'un descendant qui devait naître. Hein, on en a beaucoup parlé le jeudi soir concernant, hein, cette descendance promise à David, son descendant qui serait roi pour l'éternité. Et là, Joseph, fils de David, ce n'est pas anodin. De ta lignée doit venir le Messie, de ta famille doit venir le Messie tant attendu. Et ensuite, l'ange va expliquer à Joseph que cette grossesse gênante de Marie, chez Marie, vient du Saint-Esprit. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça a vraiment le potentiel de rassurer Joseph d'entendre ça. Il dit, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand même, c'est un ange qui lui dit, donc il va être d'accord pour prendre chez lui Marie, sa femme, ne pas rompre et honorer son engagement. Mais l'ange lui dit, concernant ce fils qui va naître, il lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus, et il donne une explication, un nouveau pavé dans la mare, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, il est conçu du Saint-Esprit. Il est de la descendance de David. Et il va sauver son peuple de ses péchés. C'est incroyable. Et pour en rajouter une couche, pour parachever la provocation, Matthieu va rajouter une prophétie. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Jésus qui va naître, conçu du Saint-Esprit, de la lignée de David, qui va sauver son peuple de ses péchés, c'est l'Emmanuel de la prophétie. C'est Dieu qui rend visite à son peuple. C'est Dieu qui s'approche des hommes. Et Matthieu, l'évangéliste, dès le premier chapitre, il est en train de balancer ça, de nous balancer ça en pleine figure, pour ses lecteurs. Il commence à lire ce récit et puis tout d'un coup, ils se prennent ça en plein dans. C'est comme quand, vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a quelques années, quand la télévision belge a interrompu ses programmes pour annoncer que la Flandre avait fait sécession et que la Belgique s'était terminée, ça n'existait plus. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Ça avait défrayé la chronique. On interrompt les programmes quand on a quelque chose d'incroyable à annoncer. Évidemment, dans ce cas-là, en ce qui concerne les Belges, c'était pas vrai, c'était un canular. Mais ils ont voulu provoquer, ils ont voulu interpeller, et ils ont tout arrêté pour annoncer ça. Pour balancer ça, si j'ose dire, dans la figure des gens qui regardaient la télé ce jour-là. Matthieu, de la même façon, l'évangéliste, il interrompt les programmes pour annoncer quelque chose de bouleversant, quelque chose d'extraordinaire qui va changer le cours de l'histoire. Dieu est intervenu pour susciter le Messie tant attendu. Par le Saint-Esprit, il a rendu une femme enceinte. Et cet enfant, de par le mariage de Marie avec Joseph, est également de la descendance de David, à qui Dieu avait promis une descendance qui serait à jamais assise sur son trône. Et enfin, il va naître pour sauver son peuple de ses péchés. Et c'était précisément cela que le peuple attendait depuis si longtemps. Si vous venez le jeudi soir, on l'a assez répété, l'obstacle principal à la réalisation des promesses dans la vie du peuple de Dieu, c'est le péché du peuple. Et là, Matthieu introduit son récit en disant « Jésus va sauver le peuple de ses péchés. » L'Emmanuel, c'est Dieu lui-même en plus qui vient parmi nous. Donc on a compris que là, Matthieu essaye de provoquer ses lecteurs. Il essaye vraiment de les remuer, de leur annoncer quelque chose d'extraordinaire, un bouleversement. Mais qu'est-ce que ce bouleversement veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'il veut dire concernant la relation de Dieu avec les hommes? La première chose qu'on peut relever, c'est que Dieu a revêtu notre humanité. Jésus, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, Dieu avec nous. Dieu a revêtu notre humanité. Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu qui sait ce que c'est que d'être un homme, un être humain, devrais-je dire. Il est conçu du Saint-Esprit, mais il est le fils de Marie aussi. Il porte les gènes de Marie. Il devait ressembler physiquement à sa mère. Il s'est incarné pleinement. Il n'est pas venu comme un fantôme, il n'est pas venu comme un ange. Il est venu comme un homme. Comme un bébé, il est venu comme un embryon, comme un fœtus, aussi fragile qu'un fœtus peut l'être dans le ventre de sa mère. Et puis il a grandi, il sait ce que c'est que d'être un enfant et un bébé, il sait ce que c'est que d'être un ado. Il a souffert, il a été triste, il a pleuré, il a été tenté en toutes choses. Sans jamais pécher, toutefois. Dieu sait ce que c'est qu'à d'être un homme. Dieu est compatissant. Mais Dieu est aussi venu au plus près de nous, non seulement pour faire l'expérience de notre humanité, mais également pour connaître pleinement nos besoins, nos souffrances, nos tentations, mais aussi pour que nous, en retour, nous puissions le connaître. Nul n'a jamais vu le Père, mais c'est le Fils qui le fait connaître. Dieu a voulu se révéler à nous par sa venue en Jésus-Christ. Et nous pouvons dire que Dieu non seulement est compatissant, mais il est également disponible. Il est venu disponible auprès de nous pour se faire connaître, pour que nous puissions le connaître. Non seulement pour que lui nous connaisse, mais pour que nous, nous puissions le connaître. Et puis enfin, nous avons un Dieu compatissant, un Dieu disponible, mais aussi un Dieu sauveur, un Dieu qui intervient. La visite de Dieu parmi nous, si j'ose dire, Emmanuel, Dieu avec nous, cette réalité a culminé à la croix. Dès sa naissance et même avant, dès sa conception et même avant, dès les prophéties de l'Ancien Testament, la mission du Christ, du Messie était annoncée. Verset 21, l'ange rappelle à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu est intervenu pour nous sauver, pour nous tirer du pétrin dans lequel nous étions, pour nous sauver de ceux dont nous ne pouvions nous sauver nous-mêmes. Dieu est intervenu en Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Et à la croix, on peut voir comment cette mission s'accomplit pleinement. L'agneau innocent qui devait être immolé pour nous, là il est, dans l'histoire et dans le temps. Il est attaché à la croix et il y meurt pour nous, pour ceux qui se confient en lui. Il y meurt parce qu'il porte sur lui le poids de nos fautes, alors que lui, il était le seul à avoir vécu une vie parfaite, une vie innocente. Mais c'est précisément parce qu'il était parfaitement innocent qu'il était le seul capable de porter le poids d'une multitude de fautes. Dans ce texte d'introduction, donc, à l'évangile de Matthieu, qui va nous raconter comment Jésus est né, comment cette naissance a été annoncée, Matthieu le raconte comme une annonce bouleversante qui nous dit des choses extraordinaires concernant la relation de Dieu avec les hommes. On a un Dieu qui compatit à notre condition et à nos faiblesses. On a un Dieu qui est disponible, qui s'est rendu disponible, qui est près de nous. On a un Dieu qui intervient pour nous sauver, si j'ose dire, c'est le contrat à durée indéterminée que Dieu a signé avec nous, hein, CDI, compatissant, disponible, et il intervient. Quelle doit être alors notre réponse, notre attitude face à cette annonce-là, cette annonce bouleversante de l'Emmanuel, Dieu avec nous? Qu'est-ce que cela doit changer à notre vie aujourd'hui? Mais je vous pose la question. Combien d'entre vous avez déjà hébergé quelqu'un chez vous? Ben nous, avec Suzanne, on a souvent hébergé des gens chez nous. Et ça entraîne trois choses. À chaque fois que nous hébergeons quelqu'un chez nous, ça entraîne trois choses. D'abord, lorsque la personne est chez nous, nous pensons à cette personne à tout moment. Sauf peut-être quand on dort. Et encore. Est-ce qu'elle est bien installée? Est-ce qu'elle a bien mangé? Est-ce qu'elle sait où se trouve la lumière de la salle de bain? On pense à la personne en permanence. Elle est chez nous. Et ce n'est pas habituel, ce n'est pas normal qu'elle y soit. Donc on y pense à tout moment. La deuxième chose que ça entraîne chez nous, c'est que, on fait très attention à l'état de la maison. Nous faisons très attention à la nourriture que nous servons. Nous faisons très attention au bruit que font les enfants tôt le matin. Nous faisons très attention à l'état de propreté des toilettes et de la salle de bain, évidemment. La troisième chose que ça entraîne chez nous, c'est que forcément, on a beaucoup d'interactions avec la personne. On discute quand on est à table, on ne fait pas comme si elle n'était pas là. Hein? On ne l'ignore pas. On a beaucoup d'interactions. Même à chaque fois qu'on se croise, il y a sans doute une parole qui est échangée. Elle est là, hébergée chez nous. C'est notre invité, c'est notre hôte, et on l'accueille dans notre domicile. Il y en a beaucoup d'interactions. Ben de la même façon, hein, quand on pense à l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui nous rend visite, Dieu qui est chez nous. Cela veut dire que Dieu n'est pas lointain. Dieu n'est pas lointain. Dieu n'est pas assis sur un nuage à l'autre bout du cosmos. Dieu est proche, il est présent au plus près de nous. Et si nous croyons en lui, si nous avons placé notre confiance en lui, la Bible dit, on le rappelait hier, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il vient habiter en nous par son Saint-Esprit. On ne peut pas être plus proche de quelqu'un qu'à l'intérieur. Et en tant qu'Église, le texte que nous avons lu hier lors de cette soirée, parlait de l'Église, parlait du peuple comme une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit, vous vous rendez compte? Nous, en tant qu'Église, on est la maison où Dieu habite par son esprit. Un temple saint dans le Seigneur, dit Paul. Est-ce que notre attention est captivée par lui comme elle l'est par la personne que nous hébergeons chez nous, qui nous rend visite? Est-ce qu'on pense à lui comme on pense à la personne qui habite chez nous pendant un temps? La deuxième chose, Dieu est non seulement proche, mais il est saint. Il est pur, c'est un invité de marque. Hein, si j'ose dire, parce que ce n'est pas nous qui l'invitons, hein, c'est lui qui nous rend visite. Mais sa présence parmi nous est un privilège incommensurable. Sa présence au cœur de notre vie est une grâce, et par définition qui ne nous a rien coûté à nous, mais une grâce qui a coûté cher à Dieu. Est-ce que nous faisons attention à l'accueil que nous lui réservons, comme nous faisons attention à l'état de la maison lorsque nous accueillons quelqu'un chez nous, comme on fait attention à la propreté de la salle de bain, et ainsi de suite? Est-ce que nous aussi nous faisons attention à l'accueil que nous réservons à l'Emmanuel, Dieu avec nous? Comment est-ce que nous gérons notre vie? Est-ce que c'est une façon qui honore Dieu? Parce qu'il est là, il est présent. Mais est-ce qu'on laisse traîner des détritus à droite, à gauche, dans quelques coins de notre vie? Nous pensons qu'on ne peut pas les voir parce que c'est des coins un peu sombres, un peu à l'écart. On a balayé la poussière sous les meubles. Mais Dieu, il voit sous les meubles. Hein? Est-ce que nous faisons attention à l'accueil que nous réservons à l'Emmanuel, le Dieu saint qui est avec nous? Et enfin, Dieu est là, effectivement, mais est-ce que nous vivons chaque jour en ignorant sa présence? Comme on ignorerait la présence d'un invité qui loge chez nous, on le regarde même pas quand on le croise dans le couloir, on s'assoit à table, on lui met sa tasse de café, paf, et puis on discute même pas avec la personne. Est-ce que nous aussi nous ignorons sa présence à Dieu? Mais quelle impolitesse quand on pense à qui il est, quand on pense au prix qu'il a payé pour être avec nous. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt profiter de sa présence à chaque instant? Profiter de sa proximité, la proximité de l'Emmanuel, Dieu avec nous, pour lui parler, pour l'écouter par la lecture de la parole notamment, pour apprendre à le connaître, pour échanger avec lui, pour communier avec lui. Tout simplement, est-ce que notre relation avec lui est vraiment une relation personnelle et vivante, ou est-ce que il est assis à notre table comme un mannequin qu'on a emprunté à un magasin de mode et qu'on l'assoit comme ça, puis on a l'impression qu'il y a quelqu'un, mais qu'en fait c'est quelqu'un qui n'est ni personnel ni vivant. Mais Dieu est personnel et vivant. Est-ce que notre relation avec lui est personnelle et vivante? Bien des gens se disent chrétiens aujourd'hui. Le pourcentage baisse, mais il y a encore une majorité de nos concitoyens en France qui se disent chrétiens, si vous leur demandez leur religion, leur croyance. Mais est-ce qu'ils pensent à Dieu comme à ce Dieu proche, Dieu avec nous? Est-ce qu'ils honorent Dieu comme ce Dieu saint qui habite chez eux? Est-ce qu'ils ont un échange, une interaction personnelle et vivante avec ce Dieu qui lui-même est personnel et vivant? Vous voyez que dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste donc introduit son sujet dès le début, juste après avoir cité toute la généalogie de Jésus, en racontant la manière dont Jésus est né. Et cela nous fait, cela annonce la période de l'Avent que nous commencerons à célébrer à partir de dimanche prochain. Mais il introduit son sujet de façon à nous montrer que ce message, cette histoire qu'il va raconter, est absolument extraordinaire. En Jésus, Dieu s'est approché au plus près de nous pour nous montrer qu'il est un Dieu compatissant, disponible et sauveur. Si Dieu est vraiment avec nous, ne croyez-vous pas que nous devrions penser à lui plus souvent, honorer sa présence avec un peu plus d'enthousiasme et de soin, et vivre de façon un peu plus personnelle et vivante notre relation avec lui. Jésus a dit à une des églises de l'Apocalypse, il leur a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je m'installerai discrètement au sous-sol. Non, il n'a pas dit ça. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Quel honneur d'être assis à table avec le roi des rois, avec le créateur de l'univers. Alors ce matin, vous entendez peut-être sa voix, vous entendez peut-être taper à la porte, mais vous avez peut-être honte de votre logement. Vous avez peut-être honte de ce qu'il y a à l'intérieur de cette porte. Vous vous dites que votre vie n'est pas digne d'héberger le Dieu trois fois saint. Mais regardez Joseph dans ce texte. Regardez Joseph dans ce texte. L'ange le rassure, enfin le rassure. Il lui dit que l'enfant de sa fiancée vient du Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est censé le rassurer ou quoi, mais moi ça m'impressionnerait plutôt d'entendre ça. Et malgré tout, Joseph, à son réveil, prit sa femme chez lui. Et avec sa femme, il était en train de ramener le roi des rois, sous forme d'embryon, chez lui. Il était charpentier, mais il n'a pas changé de maison. Sa maison, il y avait des copeaux de bois par terre, c'était un peu sale, ça sentait peut-être pas très bon. Il a reçu Jésus chez lui, en tout cas de façon imagée ici. Et Jésus, il est venu au monde, vous le savez bien, il n'est pas venu au monde dans une super clinique high-tech avec tous les... Il est venu au monde dans une étable. Le logement le plus humble et le plus sale qui soit, un logement d'animal. Si Jésus est venu au monde dans une étable, il est capable d'entrer dans votre vie, aussi poussiéreuse et sale qu'elle puisse être. Et il est capable de la transformer pour sa gloire. Amen.